Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs de Globe Radio. Bienvenue dans votre émission Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Je suis Sébastien Périmoni, donc le rédacteur en chef du site www.afriquedufutur.com. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet fondamental pour le futur du continent africain, qui est la question de la création du centre de prévention et de détection des maladies, le fameux CDC, Centre de prévention et de détection des maladies, donc qui existe dans de nombreux pays. Et nous avons décidé de partir pour cette nouvelle émission des déclarations très importantes qu'avait fait le prix Nobel de la paix, en l'occurrence le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui avait déclaré, au moment où la pandémie prenait de plus en plus d'ampleur, je le cite, c'est de là que nous allons partir, qu'il existe une faille majeure dans la stratégie de lutte contre la pandémie de coronavirus. Les économies avancées dévoilent des plans de relance économique sans précédent. Les pays africains, en revanche, n'ont pas les moyens de mener des interventions aussi significatives. Pourtant, si le virus n'est pas vaincu en Afrique, il ne fera que rebondir sur le reste du monde. Et c'est pour ça que la stratégie actuelle de mesures non coordonnées à l'échelle mondiale, bien que compréhensible, est une stratégie myope, non durable et même contre-productive. Ce n'est pas de cette façon qu'un virus qui ignore les frontières peut être traité avec succès. Nous ne pourrons vaincre cet adversaire invisible et vicieux qu'avec des prises de décision à l'échelle du monde. Sans cela, l'Afrique pourra toujours souffrir du pire, mais elle ne sera pas la dernière. Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons travailler ensemble jusqu'au bout. La victoire momentanée d'un pays riche dans la lutte contre le coronavirus au niveau national, couplée à des interdictions de voyager et à la fermeture des frontières, peut donner un semblant de réussite. Mais nous savons tous que c'est un colmatage. Seule une victoire mondiale peut mettre un terme à cette pandémie. Donc voilà un peu les propos qu'il avait tenus. Et l'Institut Schiller, l'Institut avec lequel j'ai la chance de travailler, avait appelé justement à la mise en place d'un système de santé global qui s'inspirait du meilleur des traditions des pays les plus avancés pour en faire un modèle clé en main pour l'installer dans toutes les nations du monde et d'avoir dans les 5 à 10 ans qui viennent vraiment un programme à marche forcée pour que justement toute cette masse monétaire qu'on crée au niveau international aille dans des choses réellement concrètes et pas simplement dans des bulles financières. Parce que si on fait même le bilan de la création monétaire qui est fait soi-disant dans l'aide au développement, la fameuse aide au développement à l'Afrique que l'on connaît, on voit bien que si on regarde le bilan, et ça avait été mentionné dans un article de Marianne même, en ce qui concerne les dispositifs médicaux, en France, on a 7 lits en hôpital pour 1000 habitants, alors qu'en Afrique, c'est 0,3. En Afrique de l'Ouest, c'est 0,3 lits d'hôpital pour 1000 habitants. 50 médecins pour 15 000 habitants en France, 1 pour 15 000 habitants au Burkina Faso, donc 50 fois moins. Et même si, alors que chez nous, même en France, on estime qu'il faut doubler la capacité hospitalière pour accueillir les personnes contaminées plus ou moins sévèrement, là-bas, il faudrait la multiplier donc par 50. Vous imaginez, on sait que par exemple, un pays comme le Mali, au moment où la crise du coronavirus s'est développée, n'avait qu'un seul respirateur dans une cellule de réanimation. Donc on se retrouve dans des situations où l'absence totale de système d'infrastructures de santé sur le continent africain, et on pourrait dire que quelque part, heureusement, si on peut dire entre guillemets heureusement, que la pandémie n'a pas frappé aussi fort en Afrique qu'elle l'a frappé justement dans les pays du Nord. Mais ce n'est pas la simple raison. Parce que la Chine, comme on l'a vu, a été frappée très fort par la pandémie. La pandémie a même commencé là-bas, mais a su réagir très très vite. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, de comprendre comment et de comprendre comment, du coup, ce modèle peut s'appliquer à l'Afrique. Donc, pour les 20 prochaines années. Donc, il faut savoir déjà que aujourd'hui, on est encore parfois dans un contexte de guerre froide. Voilà, on crée les ennemis, tout ça, on joue un petit peu toute la géopolitique. Mais parfois, il y a un vrai ennemi qui débarque. Et ce vrai ennemi, ça peut être une pandémie. Et là, on se retrouve tous, quelque part, comme le disait Abiy Ahmed, sur le même bateau. Et donc, il y a une leçon d'optimisme qu'on peut tirer finalement de ce qui ressort de l'humanité quand elle est confrontée à ce genre de défi qui la concerne tous, comme par exemple une grave crise sanitaire qui oblige justement les gens à sortir de la géopolitique. C'est par exemple lorsque le virus du SRAS a frappé la Chine, rappelez-vous, c'était en 2003. Le pays à l'époque, la Chine, n'avait pas de centre national de lutte contre les maladies. Ils n'avaient pas de système national de notification des cas pour reporter les cas qui étaient détectés aussi ici ou là. Aucun médecin ni journaliste ne pouvait alerter le public sans l'autorisation du ministère de la Santé. Et tout ça a été totalement rapporté, enfin tout ça a été dénoncé à l'époque, donc il n'y avait pas du tout de système de santé. Et nous avons étudié un rapport dernièrement qui a été réalisé par une femme qui s'appelle Jennifer Boué, et donc qui travaille à la Rand Corporation. Donc on ne peut pas accuser d'être pro-communiste, c'est un think tank américain, même plutôt conservateur. Et elle est également professeure à l'université de George Washington aux États-Unis. Et donc, lorsqu'il y a eu la pandémie qui a éclaté, elle a été auditionnée au Sénat américain devant le comité de l'Asie. Et elle a pu développer justement comment on devait réagir face à ces pandémies. Et ce qu'elle a rapporté est très intéressant, puisqu'elle a dit que la Chine a pu faire des avancées impressionnantes dans le domaine de la santé grâce, et là je pense qu'on peut tous être surpris, grâce à la collaboration américaine et des percées qui ont été tellement salutaires qu'aujourd'hui elles ont permis d'éviter un maximum de morts grâce à la réaction rapide de la Chine. Donc, et ça, la Chine s'en est rendu compte justement au moment de 2003, quand bah, justement le SRAS est arrivé, qu'elle n'avait aucun moyen de se défendre. Et à ce moment-là, la Chine a décidé de signer un partenariat pluriannuel avec le département de la santé des États-Unis et certains services de santé américains pour construire une réelle infrastructure de santé en Chine. Et c'est de là qu'a commencé le progrès de la Chine en termes d'infrastructure sanitaire. Et donc, ce qu'on appelle les Center for Disease Control américains, qui sont très réputés dans le monde, et le Centre national chinois de la lutte contre la grippe, donc ont signé un partenariat pour développer des techniques communes, faire du partage de connaissances, puisqu'il faut savoir qu'il y a d'autres grippes. Après le SRAS, il y a eu la grippe aviaire H5N1, il y a eu régulièrement des choses comme ça. Ensuite, il y a eu en 2009 la grippe porcine H1N1 qui a frappé le Mexique, les États-Unis, et les autorités américaines et chinoises continuaient leur collaboration donc depuis 2003-2004 pour justement développer, partager des informations et développer des technologies pour lutter contre tous ces virus. Et ce travail de collaboration a été tellement bénéfique que c'est la Chine elle-même qui est devenue le premier pays à produire le vaccin en masse contre le H1N1, alors qu'elle partait de rien 6 ans plus tôt. Donc elle a fait vraiment très rapidement. On l'a vu d'ailleurs, la Chine est capable de construire des hôpitaux de 1000 places en 15 jours. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et en 2010, donc le Centre national de la grippe chinoise comprenait déjà 408 laboratoires, 550 hôpitaux sentinelles et a été désigné par l'OMS comme le cinquième centre de référence et de recherche sur les questions liées à l'épidémie de grippe. Hein. Et donc, ils ont commencé à tester. Donc, en très très peu de temps, en 6 à 7 ans, la Chine a développé des capacités de prévention et de détection des maladies hors du commun. Et c'est ça qui nous intéresse pour le futur de l'Afrique. Et donc, là où on en vient à cette question africaine, il y a déjà un point de départ. C'est-à-dire qu'en 2014, rappelez-vous, lors de l'éclosion de l'épidémie d'Ebola, qui est quand même beaucoup plus mortelle que la grippe ou même le coronavirus actuel, c'est tout ce travail qu'avaient fait les États-Unis et la Chine pour développer des centres de contrôle et de prévention des maladies qui ont joué un rôle important parce que directement des équipes américaines et chinoises ont pu se mettre à collaborer directement sur le terrain en Chine. En Afrique, évidemment. Et donc, il y a eu plusieurs congrès qui ont été organisés, dont ce qu'on appelle le congrès sino-américain sur Ebola, qui a permis de travailler aussi avec des nations, justement des experts sur le continent africain qui étaient invités à participer pour partager aussi l'expertise et commencer à se former sur les techniques les plus modernes. Et tout ça sous la tutelle du National Health des États-Unis, le fameux NIH, donc qui a joué un rôle aussi dans le développement des infrastructures sanitaires en Chine. Donc tout ça est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tension entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu même certains personnels médicaux sous l'administration Trump avaient été retirés de Chine parce qu'il y avait un petit peu la guerre de propagande. Et donc évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui appellent à ce que cette collaboration continue. Non seulement parce que cette pandémie a émergé, mais aussi pour faire un travail de fond, justement, en ce qu'on appelle en pays tiers, et en particulier, quand on parle de pays tiers, on parle de l'Afrique. Donc c'est très intéressant parce que tout ça, petit à petit, s'est mis en place. Donc la collaboration sur les questions scientifiques entre la Chine et les États-Unis. Et ensuite, on est venu au moment de la crise d'Ebola, toute cette réflexion sur la coopération entre la Chine et les États-Unis, en particulier de leur partage des expériences communes, pour justement intervenir en pays tiers. Et un document a été publié donc récemment, en 2019, récemment, avant la pandémie, hein, et qu'on a pu lire, que je pourrais fournir aux auditeurs, si ça les intéresse, ils peuvent me contacter. Donc un document qui s'appelle « Collaboration sino-américaine dans la création et le soutien » des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Donc le fameux CDC Afrique, Centre de contrôle et de prévention des maladies, donc qui existe. Aujourd'hui, vous avez un site internet qui existe, voilà. Et donc les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, donc un fameux CDC africain est en cours de réalisation, qui est sous la compétence, sous la tutelle de l'Union africaine, et qui avait été initié les premiers balbutiements de la création de ce CDC, donc qui avait eu lieu en 2017 en Éthiopie, justement dans le but d'améliorer la surveillance des maladies infectieuses, les interventions d'urgence et la prévention de manière générale en Afrique. Et donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce CDC Afrique est, entre guillemets, opérationnel d'un point de vue de l'Union africaine. Mais l'organisation dispose déjà de centres de collaboration régionaux. Donc il y en a 5. Ils ont divisé l'Afrique en 5 parties. Il y en a un qui est au Gabon. Il y en a un qui est au Kenya. Il y en a un qui est en Égypte. Un qui est en Zambie. Et un qui est au Nigeria. Donc vous avez 5 pôles. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, soit sur la page Facebook, soit sur le site CDC Africa. Les mails, les numéros de téléphone, les contacts. Ils sont très actifs sur Facebook, ils publient régulièrement des conférences. Et donc, évidemment, ce CDC dont on discutait depuis longtemps est devenu une réalité, entre guillemets, avec des choses qui sont tout à fait aujourd'hui en cours, donc, et qui sont organisées régulièrement. Donc, les États-Unis et la Chine, c'est eux qui ont soutenu ce projet de CDC en Afrique dès 2015. Hein. Donc voilà, on voit bien que là, il y avait un intérêt commun. Et continue d'ailleurs à le faire aujourd'hui. Il y a régulièrement des sommets entre la Chine, les États-Unis et l'Union africaine, donc justement qui discutent et qui collaborent, hein, entre le ministère de la Santé américain et le directeur général de la coopération internationale du ministère chinois de la Santé. Et donc c'est intéressant puisque ce directeur général de la coopération internationale au ministère chinois de la Santé, qui est en charge de ça, a déclaré justement dernièrement que le CDC Afrique, c'est la création d'un processus réglementaire, hein, je cite, « permettant à l'Afrique d'accéder à des médicaments et à des vaccins et d'être réactive en matière de diagnostic ». Je rappelle au FOCAC 2015, donc le Forum de la coopération sino-africaine, le gouvernement chinois avait déjà publié un document d'orientation indiquant qu'il encourageait les sociétés pharmaceutiques chinoises à investir en Afrique pour réduire le coût des médicaments pour les Africains. Donc c'est lors de cette réunion de haut niveau sur la coopération sanitaire entre la Chine et l'Afrique qui avait eu lieu en 2018 que justement la Chine a à nouveau appelé à soutenir massivement, et lors des différents sommets FOCAC, donc comme on le sait, le dernier a eu lieu en 2018, lors duquel la Chine s'est non seulement engagée, mais a formé des professionnels de la quarantaine sur le terrain. Et donc plusieurs choses déjà ont lieu dans ce domaine-là. Donc c'est très intéressant, puisque aujourd'hui, dans tout ce développement, si on retrace depuis 2003, hein, je parlais du SRAS, la coopération sino-américaine d'abord pour que la Chine atteigne un niveau d'excellence, parce qu'on parle d'un niveau d'excellence aujourd'hui en 20 ans, et qui commence aujourd'hui à mettre en place les infrastructures au niveau continental pour l'Afrique. Donc c'est très intéressant. Je vais juste vous donner quelques exemples qui sont tout à fait concrets, tout à fait publics. C'est que maintenant, régulièrement, vous avez des experts médicaux chinois donc qui organisent régulièrement, tous les mois ou tous les deux mois, des conférences en vidéo, par Zoom, avec déjà 24 pays africains. Et c'est organisé justement par le ministère de la Santé chinoise. Et donc, ça dure 3 heures. Et les médecins qui ont géré l'épidémie en Chine, à Wuhan, c'est des médecins de Wuhan, là d'où est partie la pandémie, peuvent s'entretenir avec une 300-350 personnes en Afrique qui sont sur le terrain, qui font face justement à des situations au niveau technique et médical en termes de matériel qui sont très limitées. Voilà, donc il y a des échanges par rapport au niveau de différents pays qui sont très intéressants. Donc voilà, ce qu'a déclaré justement la personne en charge de ça, c'est qu'il faut toujours aller de l'avant, continuer à renforcer la lutte contre l'épidémie chez nous. Nous partageons sans réserve tout ce que nous savons de la pandémie avec les pays africains et continuerons à offrir autant d'aide que possible pour soutenir et aider ces pays et organisations régionales conformément à leurs besoins. C'est une étape importante de notre stratégie. Et donc, le secrétaire du ministère de la Santé du Kenya, donc qui s'appelle Mutahi Kagwe, a lui reconnu que c'était vraiment des choses fondamentales pour l'avenir d'un système d'infrastructure sanitaire continentale. Il a dit, je le cite, c'est une étape extrêmement importante en termes de partage de savoir. Les médecins chinois nous ont fourni une énorme quantité de connaissances qui contribueront grandement à aider notre peuple. Donc voilà, on voit bien que c'est tout à fait concret et que l'histoire de la mise en place d'un système d'infrastructure sanitaire est très importante. Et il faut que ça s'accélère. Il faut savoir que le siège du CDC, donc du Centre de contrôle et de prévention des maladies, est en cours de construction. D'ailleurs, il va être construit à Addis Abeba, donc en Éthiopie. Et donc, il est en cours de construction où là, vraiment, il y aura des infrastructures physiques. Les médecins pourront organiser des congrès, etc., avec des formations. Et donc, ça va devenir quelque chose de très important puisque ça va être le noyau, quelque part, la graine qui va faire pousser, justement, dans les 10 ans qui viennent, dans les 20 ans qui viennent, et permettre à l'Afrique d'atteindre ce niveau d'excellence qu'a la Chine, que la Chine a elle-même développé en 20 ans et que nous, l'Occident, on va dire, avait développé un petit peu plus tôt, même si aujourd'hui, on doit l'avouer, nous-mêmes, nous sommes en train de détruire nos propres systèmes de santé. Cela ne doit pas être le futur, en tout cas. Donc il faut inverser la donne. Donc ça, c'est très intéressant. La France, d'ailleurs, on peut citer la France, puisqu'elle n'est pas forcément absente de toute cette construction, ce partage. On sait qu'on a l'Institut Pasteur, qui est quand même reconnu dans le monde. On peut citer le professeur Raoult, qui a fait la une de nos médias, qui a beaucoup travaillé avec l'Afrique, qui travaille avec énormément encore aujourd'hui de scientifiques africains, et il a fait beaucoup d'avancées pour l'Afrique. Et donc l'Institut Pasteur, faut savoir qu'il y en a un à Dakar qui a très très bien fait, qui a développé très vite des tests rapides et pas chers. Ils avaient une expertise, etc., grâce à travail de l'Institut Pasteur, et qui ont pu très vite mettre à contribution. Alors il faut savoir que quand même l'Institut Pasteur, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Institut Pasteur au Sénégal, à Dakar, a quand même été créé donc en 1896. Pas 1996, mais 1896. Donc c'est la grande époque, évidemment, de ce qu'on appelle les pasteuriens, qui sont justement allés en Afrique pour aider les gens à se prévenir des maladies que nous, on savait se prévenir. Donc on allait là-bas. Il n'y avait pas du tout cette mission évangélisatrice ou civilisatrice. C'était vraiment purement scientifique. Et les pasteuriens avaient cette qualité d'humanisme. Si vous voulez, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les élites politiques, mais enfin, ils ont essayé vraiment de lutter contre des maladies où les enfants, en particulier, mouraient bêtement, finalement, alors qu'il y avait des solutions très simples. Donc l'Institut Pasteur, évidemment, a joué, entre guillemets, même s'il faut être honnête, ça manque beaucoup de moyens. toutes les institutions médicales au Mali où j'étais, en Côte d'Ivoire. Voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas de financement. L'argent est la plupart du temps détourné. L'argent de l'aide au développement, l'argent des contrats pour les grands soi-disant projets d'aménagement du territoire, etc. Donc c'est beaucoup d'argent qui est perdu et qui pourrait servir très facilement, en fait, hein, dans l'élaboration de ce système, je dirais, à la fois national dans chaque pays et continental sous la tutelle du CDC Afrique, donc du Centre de prévention et de contrôle des maladies, et de l'Union africaine. Donc on aura un relais entre national et continental qui serait tout à fait opérationnel. Et donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, je pense, la chose très intéressante à voir, c'est que face à ces défis que connaît l'humanité, qui sont justement ce type de grande pandémie, bah, il faut que justement, face à ces enjeux, ce soit la science qui parle, ce soit pas la géopolitique, que ce soit pas les intérêts de quelques lobbies pharmaceutiques, que ce soit pas les intérêts de quelques lobbies militaires ou financiers qui prévalent, mais que ce soit vraiment justement le bien commun, le bien commun universel. Et on le voit d'ailleurs, et c'est intéressant dans cette histoire dont on a parlé aujourd'hui, c'est qu'au niveau des scientifiques, que ce soit dans le spatial, dans le nucléaire, dans la médecine, on voit bien qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de géopolitique. On travaille ensemble par rapport à régler des problèmes qui sont devant nous. Et que souvent, cette collaboration entre scientifiques est très efficace, mais malheureusement, est sabordée la plupart du temps par des décisions politiques infantiles et à court terme. Donc voilà un petit peu ce dont on voulait parler aujourd'hui dans l'émission « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Donc parler que la Chine a pu mettre en 20 ans, développer dans son pays les capacités d'infrastructures sanitaires qui sont aujourd'hui reconnues comme étant de classe mondiale et a pu donc faire face à la pandémie de manière extrêmement efficace avec des décisions strictes mais courageuses et nécessaires. Ça, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Et de montrer comment ce CDC qui a commencé à naître en Afrique donc va suivre, je l'espère, et on doit tous pousser pour ça, suivre dans chaque pays pour créer justement ce système d'infrastructure sanitaire continentale qui soit également très efficace. Donc voilà, ce type de pandémie parfois nous aide à changer un peu nos mentalités, à sortir un petit peu du court terme, et voir, comme on le disait, qu'on est tous sur le même bateau. D'ailleurs, une des philosophies chinoises qu'on appelle Tianxia, qui veut dire que nous sommes tous sous le même ciel. En effet, on est tous sous le même ciel. Ça, c'est une évidence. Et donc, on fait tous, quelque part, face aux mêmes défis, face aux mêmes problèmes. Donc voilà, face à cette crise de la pandémie du coronavirus, c'est ce genre d'événement qui peut nous permettre de changer de paradigme. Si on voit que c'est difficile, hein, l'économie, les gens en souffrent sur le continent, les gens en souffrent partout finalement. Mais voilà, comme le mot crise en chinois signifie à la fois moment de grand danger et opportunité heureuse, c'est-à-dire que c'est un moment quelque part de tension et de crise, mais d'un mal pourrait sortir un plus grand bien. C'est comme ça qu'il faut le penser. C'est ça, voir l'Afrique avec les yeux du futur. C'est ça, imaginer son centre de prévention et de contrôle des maladies comme étant un des meilleurs du monde, justement, dans les 15 à 20 prochaines années. C'est sur cela qu'on doit se concentrer. C'est sur cela qu'on doit porter nos regards. C'est sur cela qu'on doit travailler. Voilà, c'est ça, voir l'Afrique avec les yeux du futur. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Globe Radio. Et je vous dis à la prochaine émission.